Les dessous de l'Infox. Sophie Malibaud.
Bonjour, bienvenue dans les dessous de l'Infox. Les réseaux sociaux qui ont d'abord facilité l'accès à l'information et permis de grandes mobilisations en faveur de la démocratie sont devenus de plus en plus toxiques. Nous évoquons cette évolution avec Julien Nocetti du Centre de géopolitique de la datasphère, Géode, partenaire de cette émission. Avec Monique Ngomayak de l'AFP Factuel à Dakar, nous verrons comment la désinformation sur les réseaux sociaux vient amplifier l'effet catastrophique de l'arrêt de programmes d'aide américaine. De fausses rumeurs visent les patients atteints du sida au Cameroun. Mais pour commencer cette émission, une tendance de plus en plus répandue sur les réseaux sociaux, tout particulièrement en Afrique, la propagande politique en musique grâce à l'IA, à l'insu des artistes. On en parle tout de suite avec Grégory Genevrier de la cellule Info Vérif de RFI. Bonjour Grégory Genevrier.
Bonjour Sophie.
Cela fait un moment que vous observez le phénomène et il ne cesse de monter en puissance. Vous allez nous montrer ce que la musique générée par l'intelligence artificielle permet de faire. Le mode opératoire est simple. La voix d'un artiste mondialement connu est manipulée grâce à l'IA pour chanter à la gloire d'une personnalité politique.
Oui, et presque toutes les stars du rap et du R&B sont concernées. Les voix de Beyoncé, Aya Nakamura, Black M, Drake ou encore Ninho sont régulièrement détournées. Côté personnalité politique, la plupart des chefs d'État africains ont été victimes de ce phénomène. Le béninois Patrice Talon, le sénégalais Bassirou Diomaye Faye ou encore le guinéen Mamadi Doumbouya pour ne citer que. Le dernier son en date publié cette semaine cible le capitaine burkinabé Ibrahim Traoré. Écoutez.
Ibrahim, t'as pris la route, pas de retour. T'as le courage d'un lion, tu fonces sans détour. Sous le soleil de Ouagad, t'es un phare dans l'ombre. Un leader au cœur grand qui inspire et qui encombre.
Cette voix, vous l'aurez peut-être reconnue, elle imite presque parfaitement celle du rappeur Gims. Autre exemple, en l'honneur cette fois du président ivoirien Alassane Ouattara.
Alassane Ouattara, l'amour pour respect, il a pris la main du pays, il a tracé le sillon. Du nord au sud, chaque région connaît son projet, les routes se construisent, les rêves se s'imbétonnent.
Cette fois-ci, c'est la voix du rappeur Booba qui a été détournée, mais soyons clairs, ces sons qui se comptent par dizaines sur les réseaux ne sont pas authentiques, ils ont été générés via l'intelligence artificielle. En réalité, ni Gims, ni Booba n'a fait l'éloge d'Ibrahim Traoré ou d'Alassane Ouattara en musique.
Alors, est-ce que l'on sait qui génère ces musiques ?
Alors, d'après nos recherches, la plupart d'entre elles proviennent d'un petit nombre de chaînes YouTube qui diffusent régulièrement ce genre de son artificiel. Même s'il faut creuser pour la trouver, la mention générée par IA est bien présente dans la légende. Sur YouTube, ces contenus dépassent rarement les 50 000 vues, mais sur Instagram et TikTok, certaines d'entre elles dépassent les 5 millions de vues.
Sauf que les comptes qui les relayent ne mentionnent pas l'utilisation de l'intelligence artificielle.
Mais c'est bien là le problème, puisque ce qui a été généré initialement à des fins humoristiques se retrouve utilisé à des fins de désinformation. Des comptes très influents se servent de ces infox pour faire de la propagande. Les commentaires montrent que malheureusement des milliers d'utilisateurs tombent dans le panneau.
Alors ce type de contenu, Grégory, est-ce que c'est facile à produire ?
Eh bien oui, en utilisant les bons outils, il est possible de générer rapidement et gratuitement ce type de musique artificielle. On peut donc faire dire ce que l'on veut à n'importe quel artiste. Mais attention, certaines législations encadrent la pratique. En France, l'article 226-8 du Code pénal punit d'un an et de 15 000 euros d'amende le fait de porter à la connaissance du public un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et représentant l'image ou les paroles d'une personne sans son consentement et s'il n'en est pas expressément fait mention. La plupart des publications sont donc illégales.
Merci Grégory Genevrier. Cette chronique et les précédentes se trouvent sur notre site rfi.fr. Vous pouvez aussi les retrouver en tapant Info Vérif RFI dans un moteur de recherche. L'intelligence artificielle, on y revient maintenant avec notre invité car c'est l'un des facteurs majeurs de la transformation des réseaux sociaux et pas toujours pour le meilleur.
On en parle.
Bonjour Julien Nocetti.
Bonjour.
Vous êtes chercheur associé au Centre de géopolitique de la datasphère Géode, partenaire de cette émission, ainsi qu'à l'Institut français des relations internationales. Vous avez tout récemment publié à la Documentation française un petit livre qui fait le point sur nos usages des réseaux sociaux. Son titre, Tous influencés par les réseaux sociaux, point d'interrogation. Néanmoins, à vous lire, la réponse ne fait pas trop de doute, il me semble. Les réseaux sociaux sont entrés dans nos vies et vont jusqu'à modifier nos comportements.
Alors absolument. En fait, l'idée derrière ce titre, c'était vraiment d'interroger l'omniprésence des réseaux sociaux dans nos vies sociales, dans les rapports économiques également, avec une incursion dans le champ politique, voire diplomatique. Ça fait l'objet de quelques-uns des encadrés de l'ouvrage, de façon à ce qu'on puisse questionner en fait l'évolution de ces réseaux sociaux, sachant qu'on y met, derrière ce terme, quantité d'acteurs qui parfois sont assez différents dans leur origine, dans leur design technique, dans leur audience, dans leur portée internationale. On parlera très différemment, bien sûr, on y reviendra peut-être, d'un TikTok et d'un Facebook, par exemple. Donc, un petit peu l'objet de l'ouvrage, de ne pas voir uniquement les côtés négatifs, même oui. si on est forcément très tenté, moi le premier, de mettre l'accent sur tous les défauts, toutes les capacités de nuisance, même, de certaines plateformes sociales, dans leurs rapports humains et politiques. De manière à souligner quelques aspects positifs, parce que au demeurant, il y a quand même quelques apports à souligner.
Oui, justement, c'est comme ça que commence le livre. Vous rappelez donc tous les bénéfices que le citoyen lambda a pu tirer de cette mise à disposition gratuite de grandes plateformes sur lesquelles on peut échanger à l'échelle planétaire, et vous parlez d'une forme d'intelligence collective. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Absolument. Alors, c'est vrai qu'en 2025, postuler une intelligence collective via les réseaux sociaux, c'est peut-être un peu osé. Mais là, je me suis aussi fondé sur quantité de travaux depuis quasiment 20 ans, sachant qu'il y avait un tournant à la fin des années 2000, début des années 2010, sur justement la façon de lier collectivement nos sociétés, nos rapports humains via ce champ numérique, de façon à pouvoir davantage nous mobiliser de façon citoyenne, voire politique, à créer...
Vous dites par exemple que les réseaux sociaux sont facteurs d'égalité.
Ça fait partie des paradoxes, là encore une fois, avec notre regard de 2025, où pendant très longtemps, on a eu à l'esprit l'idée de réseaux sociaux qui allait créer une forme d'égalitarisme, qui allait aplanir un petit peu les rapports sociaux, les rapports internationaux. Alors, on est en partie revenu de cette problématique, bien sûr, mais globalement, grâce à un accès aujourd'hui très très facilité, où en fait, c'est cet accès gratuit en quasiment tout point du monde, fait que notre accès à la connaissance, notre accès à des informations, quelles qu'elles soient, est partagé de façon beaucoup plus horizontale, égalitaire d'une certaine manière.
Et le potentiel pour la mobilisation politique, on peut parler déjà des révolutions arabes, ce genre de choses ne se serait pas faite peut-être sans l'existence des réseaux sociaux.
Absolument. Et c'est vrai qu'à un moment dans l'ouvrage, au début, je souligne l'année 2009. 2009, ça a été une prise de conscience peut-être plus marquée, plus globale dans nos sociétés sur ce rôle politique des réseaux sociaux, avec l'exemple de l'Iran en premier lieu, où en juin 2009, il y a eu la révolution verte avec des élections dont le résultat a été contesté par une partie de la jeunesse de Téhéran et d'autres villes du pays, et les usages de Twitter, tout particulièrement de YouTube aussi, dans un second temps, ont été si denses, si coalisés, qu'on a vraiment pris conscience à cette époque que les réseaux sociaux pouvaient aussi, non pas renverser des régimes, mais du moins mobiliser certaines fractions de la population de façon à avoir une issue, à avoir un résultat politique. Évidemment, les années qui ont suivi, à commencer par les printemps arabes, en Tunisie, en Égypte, en Syrie aussi au tout début, en Russie également, quasiment au même moment, il y a eu cet espoir que les réseaux sociaux pouvaient faciliter la démocratie. Avec un premier retour de bâton qui a été celui des répercussions de l'affaire Snowden en 2013, l'ancien contractuel de la NSA américaine, parce que c'est un moment où de plus en plus d'États, autoritaires, semi-autoritaires et aussi démocratiques, ont pris conscience des dangers de cet accès à tout craint aux plateformes sociales et du fait que les interdépendances numériques devaient être plus ou moins encadrées. Et je mets de gros guillemets derrière encadrées. C'est un premier retour de bâton, sachant que quelques années plus tard, avec l'élection américaine de 2016, qui avait opposé, on se rappelle, Donald Trump à Hillary Clinton, les usages en particulier de Facebook et aussi Twitter ont été si massifs en faveur de la campagne de Trump que les révélations qui ont suivi sur certaines manipulations de l'électorat américain ont refermé la parenthèse optimiste vis-à-vis des réseaux sociaux et de leurs usages, dans une finalité vraiment politique.
Vous citez ces deux dates clés, 2016-2024, comme vraiment les moments clés de la dérive des plateformes.
Alors absolument. 2016, ça a été le contexte que j'ai évoqué avec une affaire qui s'est structurée en plusieurs temps. D'abord, quelques mois avant la campagne américaine, l'affaire du Brexit avait déjà tiré un peu la sonnette d'alarme avec une société de conseil, Cambridge Analytica, qui a eu un rôle majeur dans l'aiguillage du comportement électoral d'une partie de l'électorat britannique sur le fait de savoir s'il fallait ou non quitter l'Union européenne. Et semble-t-il, on l'a supprimé plus tard, hein, le rôle de Cambridge Analytica a, en allant acheter quantité de publicité ciblée, en allant répandre sur Facebook notamment des récits qui collaient étroitement avec les camps politiques les plus radicaux et ceux qui mettaient en avant l'idée du Brexit, c'était déjà un premier signal. Et les mêmes modes opératoires, je dirais, en fait, sont reproduits avec la campagne électorale américaine de 2016, où là, le niveau d'échelle a été bien supérieur, puisque ce sont, de mémoire, entre 85 à 90 millions d'Américains, d'électeurs américains, qui ont été ciblés directement via ces publicités qu'ont diffusées les acteurs de Cambridge Analytica.
En 2024, on a franchi encore une étape supérieure.
On a franchi une étape supérieure, au moins sur deux plans. Le premier, c'est sur le plan des technologies elles-mêmes. C'est-à-dire que c'est plus seulement les réseaux sociaux qui font que un camp politique en particulier pourra diffuser des récits de façon assumée, c'est aussi un langage qui est outrancier et qui, en fait, quand on le compare à celui de 2016, on a vraiment l'impression d'être dans des moments très différents. Donc, il y a d'une part l'évolution propre des technologies, le fait que sur un plan rhétorique, il y a un côté tout à fait assumé à mentir, à répandre des rumeurs, des canulars, à se moquer éperdument de la vérité scientifique en particulier, climatique, etc. Et tout ça fait que, effectivement, en à peine 8 ans, il s'est passé un monde. Et ça aurait pu être aussi un des focus précis du livre.
Oui, mais alors justement, en 2020, il y avait déjà aussi toute cette désinformation et il y avait même ce grand mouvement conspirationniste QAnon pour favoriser la candidature de Donald Trump. Néanmoins, ça n'a pas fonctionné jusqu'au bout puisque Joe Biden s'est fait élire. Et donc, avec ce contre-exemple, je voudrais vous interroger sur l'impact que ces manipulations ont. Je crois qu'il n'y a pas de consensus scientifique sur le fait de savoir jusqu'à quel point les manipulations sur les réseaux sociaux ont un effet dans la vie réelle.
Là, vous pointez un des principaux sujets contentieux relatifs à ces manipulations d'informations, parce que ce qui fait débat, c'est précisément leur impact, en fait, comment aller modéliser leurs répercussions. Parce que, d'un côté, on s'intéresse, moi y compris par ailleurs dans mon travail, sur la typologie des récits, des narratifs qui vont être diffusés par tel acteur de la menace. On parle beaucoup de la Russie, mais c'est aussi la Chine, ça peut être l'Iran, etc., qui ont des politiques extérieures très assumées dans ce champ de l'influence. Mais mesurer la réception de l'information distordue, manipulée, falsifiée par les populations, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Il y a de premiers travaux qui ont commencé à être publiés aux États-Unis depuis environ un an et demi, deux ans, et qui relativisent d'ailleurs l'impact au long cours de ces manipulations de l'information. Mais on a besoin de données, là aussi, fiables, accessibles, sur nos contextes européens. Et ça, étant donné le moment politique dans lequel on vit, avec une administration de Trump qui est vent debout pour aller instrumentaliser la notion de liberté d'expression, ça va être très compliqué. Pour au moins une raison que je peux évoquer, hein, c'est celle du harcèlement aujourd'hui, y compris sur le plan judiciaire, qui est effectué par certaines plateformes, par certains des réseaux sociaux qu'on aborde à ce micro, vis-à-vis des chercheurs qui souhaitent accéder à des données, ce qui est pourtant prévu par le DSA, donc le règlement européen sur les services numériques, qui postule dans son texte, hein, la liberté d'accéder aux jeux de données des plateformes.
La plateforme X, anciennement Twitter, finalement, ce qu'on voit dans votre livre, ce n'est pas la plus importante en nombre d'utilisateurs. C'est intéressant d'observer la palette de ces plateformes, des réseaux sociaux et leur évolution propre. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles sont les grandes tendances marquantes ces dernières années ?
Effectivement, c'est vrai qu'on a beaucoup tendance à mettre en avant le rôle de X, ce qui est assez fascinant, d'une certaine manière, parce que pendant des années, on s'est moqué du modèle d'affaires défaillant, problématique de Twitter, tout en mettant en avant le rôle politique, voire diplomatique de cet outil Twitter. À l'inverse d'autres réseaux sociaux comme Facebook, YouTube, hein, qui appartient à Google, et d'autres acteurs que je vais mentionner par la suite, qui se sont plus rapidement installés dans un modèle d'affaires extrêmement rentable, tout en ne niant pas, à certains moments, s'insérer dans des rapports politiques, internationaux, tout à fait intéressants. Mais leur business model a été façonné dès le départ, avec évidemment le rôle de personnalités comme Mark Zuckerberg, voilà, ou d'autres.
Le patron de Meta qui regroupe aujourd'hui Facebook, Instagram, WhatsApp, c'est un empire.
C'est un empire, effectivement, et qui concentre à lui seul, d'ailleurs, l'évolution des réseaux sociaux dont on parle à ce micro. C'est-à-dire que Facebook a été le premier des mastodontes, hein, que j'évoque dans le livre.
Vous pouvez rappeler comment c'est né Facebook ? Parce que c'est anecdote assez incroyable. Peu de gens le savent, je pense.
Bien sûr, c'est tout à fait fascinant. En fait, c'est au départ un projet d'un étudiant, Mark Zuckerberg, qui était isolé, plutôt rejeté sur son campus de Harvard, et qui s'intéressait bien davantage aux relations sociales, notamment avec les femmes sur le campus, qu'il pouvait nouer. Et semble-t-il, son parcours sentimental était plutôt semé d'échecs, hein, pour parler très poliment à ce sujet. Donc l'idée de Facebook au préalable était de créer une sorte de trombinoscope des étudiantes les plus attirantes. Donc le projet est né dans une chambre d'étudiants d'Harvard, et le projet s'est diffusé à l'ensemble du campus, ce qui a valu à Zuckerberg par ailleurs quelques problèmes avec l'administration de l'université. Il n'a jamais été au bout de sa formation par ailleurs, ce qui l'a pas empêché 15 ans plus tard d'être docteur honoris causa d'ailleurs d'Harvard, hein, en 2017, parce que là aussi on a peut-être oublié. Mais le caractère relativement grotesque finalement du projet de départ et ce que Facebook est devenu par la suite est tout à fait phénoménal. En fait, dans la trajectoire plus global d'acteurs économiques. Mais on n'aurait jamais pensé, lui le premier, que ça atteindrait 2 milliards d'utilisateurs dans le monde.
Cette histoire, je vous l'ai fait raconter parce que finalement, Facebook, Meta, continue de faire la une de l'actualité de façon assez sulfureuse. On a aujourd'hui la parution d'un livre qui s'appelle Careless People, ça veut dire gens négligents ou gens imprudents, enfin ça dépend de la façon de traduire. L'auteur s'appelle Sarah Wynne Williams, c'est une ancienne employée de la société. Meta essaye de la faire taire, mais justement, tout ce bruit autour du livre va lui amener beaucoup de lecteurs, sans doute. Qu'est-ce qu'on apprend de nouveau encore avec l'apparition de ce livre ?
Alors, ce qui est tout à fait fascinant avec Facebook, c'est qu'en fait, ce sont les anciens salariés, anciens collaborateurs du groupe qui en parlent le mieux. Parce que c'est un groupe qui s'est toujours distingué par une opacité assez claire.
Oui, il y avait déjà eu les révélations de Frances Haugen.
Effectivement, quelques années, les révélations de Frances Haugen, qui était une ancienne ingénieure de Facebook.
Sur Cambridge Analytica, dont vous parliez tout à l'heure.
Et aussi Chris Wiley, qui lui avait aussi publié un pamphlet contre Meta et plus globalement contre le fonctionnement de l'économie numérique, parce que lui avait été impliqué dans le scandale Cambridge Analytica. Mais tout ça montre bien.
Mais aujourd'hui, voilà. Voilà, Sarah Wynne Williams, que nous dit-elle ?
Elle nous dit que ce fonctionnement de Facebook, du groupe Meta, est toxique. Et qu'effectivement, quand on combine toxicité extrême du management de Facebook, hein, qui est d'une verticalité rarement vue auparavant dans l'économie numérique, et pourtant, on a quand même d'autres exemples, et impact concret sur des situations à la fois individuelles, en allant attiser la haine en ligne, des formes de harcèlement, la division des sociétés, hein, au sens large, tout ça fait que son propos résonne d'autant mieux dans l'actualité immédiate, et puis est une pierre de plus, en fait, à cet édifice qui est aujourd'hui critiqué de toutes parts. Hein. Donc l'édifice de Meta, qui s'est construit de la façon dont on l'a rappelé tout à l'heure, et qui montre bien que tout ça n'est pas forcément sain d'un point de vue démocratique.
Alors le développement des plateformes numériques que l'on connaît aujourd'hui, c'est une nouvelle industrie qui prospère grâce à nos données personnelles. Une universitaire américaine a théorisé ce phénomène et ses implications dans un livre intitulé « Le capitalisme de surveillance ». C'est Shoshana Zuboff, elle est psychosociologue et elle nous explique exactement en quoi ça consiste.
Every time. C'est qu'à chaque fois que quelqu'un se frotte à Internet, quelle que soit la façon dont ça se passe, on laisse des traces de nos comportements, des signaux comportementaux, qu'on a commencé à essayer de comprendre chez Google. Ces signaux sont pleins de données prédictives extrêmement riches. Et en jouant avec ces données, les gens de Google se sont rendus compte qu'ils pouvaient commencer à prédire le comportement des gens à partir des traces, des signaux qu'ils laissaient derrière eux. Mais nous n'avons aucune idée que nous laissons ces traces. C'est quelque chose qui se passe sans qu'on en ait conscience. Et donc tout ça est là, dans l'obscurité. Alors qu'ils commençaient à apprendre à prédire nos comportements en récoltant tous ces signaux, Larry Page, l'un des fondateurs de Google, a eu une grande idée qui accompagne cette découverte. Son idée, c'est que les prédictions du comportement humain pourraient être vendues comme des marchandises, exactement comme nous vendons du pétrole. Et on pouvait les vendre en très grand volume. Il y aurait des marchés pour ça. Parce que partout dans le monde, et c'est vrai depuis le début de l'histoire, tout le monde veut connaître l'avenir.
Donc Julien Ossetti, les réseaux sociaux, vous l'avez dit tout à l'heure, ils sont tous différents, ils ont chacun leur spécificité, mais tous sont-ils construits sur ce même modèle économique qui s'élabore à partir de ce que décrit Shoshana Zuboff, la donnée personnelle?
Effectivement, c'est vrai qu'on a fait parfois, au cours des ans, une comparaison peut-être un peu rapide entre la valeur des données et celle du pétrole, donc le noué l'or noir que constitueraient les données. Bon, je pense que c'est peut-être aller un petit peu vite en analogie, sachant que le pétrole est par nature une ressource finie, hein, au contraire des données numériques qui, elles, sont extensibles à l'infini, on peut les multiplier de façon exponentielle. Mais ce que Zuboff aussi nous dit, c'est que toute cette économie numérique, elle est fondée sur un modèle extractif des données via une multiplication, là aussi tout à fait colossale, des publicités ciblées et des abus aussi qu'on peut détecter. Tout ce qui a été au fondement finalement des politiques, des Google et d'autres acteurs de cette économie numérique, ça a été une recherche maximale de la captation d'attention des usagers. Et ça, pour le coup, entre 2008, 2010, 2012, on avait relativement peu conscience d'être capturé au sein de bulles informationnelles. Aujourd'hui, ça paraît beaucoup plus évident.
Comment est-ce qu'on va pouvoir y échapper? Est-ce que c'est possible d'échapper à cette logique économique?
C'est très dur d'y répondre succinctement.
Non, mais vous parlez régulation. Est-ce que c'est possible d'avoir une régulation efficace dans ce contexte-là?
Quand on pose la question de la régulation des réseaux sociaux, on arrive très vite et très naturellement à ce que l'Union européenne, en fait, a cherché à mettre sur la table. J'ai mentionné tout à l'heure le DSA, donc le règlement européen sur les services numériques. Le DMA, lui, se concentre sur le marché numérique encore à construire, à unifier sur le plan des services numériques. Mais globalement, une nouvelle fois aujourd'hui en 2025, on se sent un peu seul sur la planète sur cette question de régulation des plateformes sociales, parce que on voit bien l'hostilité aujourd'hui qui est tout à fait claire et nette de l'administration américaine sur toutes ces initiatives de régulation, qu'elles émanent de l'Union européenne, aussi bien d'initiatives multilatérales.
Surtout quand l'un des principaux contrevenants, à savoir Elon Musk, est lui-même patron d'autres sociétés dont vis-à-vis desquelles nous avons une certaine dépendance, je pense à SpaceX.
Toutes ces situations d'interdépendance créent en fait d'une part, des conflits d'intérêts absolument majeurs, ce qui est tout à fait incroyable aujourd'hui dans une vie démocratique. Mais pour revenir à votre question de départ, sur cette possibilité ou non de mieux réguler les réseaux sociaux en fonction aussi de valeurs qu'on souhaite défendre à tout prix, ça reste un des grands enjeux de notre temps. Et je dirais même plus qu'aujourd'hui, c'est quasiment devenu un enjeu de politique étrangère à part entière. Et c'est plus seulement un enjeu socio-technique, de régulateur européen dans son bureau, loin de là. C'est un enjeu de défense de valeurs, au sens propre du terme. Sachant que la démocratie est attaquée de toutes parts à ce niveau-là.
Par ailleurs, est-ce qu'on peut se proposer d'établir des normes, de faire de la régulation quand on n'a pas soi-même une industrie en Europe avec une plateforme ou des plateformes européennes?
C'est ce qui est souvent critiqué aux thuriféraires, aux défenseurs de justement des régulations européennes du numérique. Parce que, au fond, le projet européen en matière numérique s'est construit sur la norme avant finalement d'avoir su constituer un écosystème, une industrie du numérique suffisamment performante qui puisse s'exporter au-delà du cadre de l'Union européenne et rivaliser directement avec les compétiteurs américains et chinois. Et ça n'a pas été fait pour différentes raisons, de culture politique, de rapport à l'industrie, etc. Donc on est, de ce point de vue-là, en retard, même si j'ai toujours beaucoup de réticence à adopter cette rhétorique du retard à laquelle on aime bien accoler l'Union européenne. Mais sur ce plan des régulations, une nouvelle fois, c'est un des grands enjeux aujourd'hui de la politique internationale.
Merci beaucoup Julien Ossetti. Je rappelle justement le titre de votre dernier livre, Tous influencés par les réseaux sociaux à la documentation française. Nous retrouvons à présent Monique Ngomayag à Dakar, journaliste et fact-checkeuse de l'agence France Presse. Bonsoir Monique.
Bonsoir Sophie, bonsoir aux auditrices et auditeurs de RFI.
Alors dans un contexte perturbé par la multiplication des annonces faites par la Maison Blanche à un rythme effréné, des messages trompeurs sur les réseaux sociaux viennent semer le trouble et amplifier l'inquiétude bien réelle, il faut le dire, en ce qui concerne l'arrêt des aides fournies par l'agence américaine USAID. Vous avez repéré, Monique, un message mensonger visant les patients affectés par le VIH-Sida au Cameroun, où ils bénéficient de traitements que l'on appelle les antirétroviraux ou les ARV à titre gratuit. Alors c'est une infox extrêmement alarmante.
Oui Sophie, le message en question affirme à tort que les antirétroviraux coûteraient désormais 10 000 voire 15 000 $ la dose. Fin de citation. C'est une somme énorme. 10 000 $ $1,000, c'est plus de 6 millions de francs CFA, soit 165 fois le salaire minimum au Cameroun. Et la rumeur va encore plus loin. Elle affirme que ce traitement doit être pris en moyenne 2 fois par mois, ce qui porterait la dépense à 20 ou 30 000 dollars par mois. Bon, à ce stade, ça paraît déjà très suspect. Mais face aux nombreux commentaires d'internautes semblant accorder du crédit à cette annonce, nous avons décidé de vérifier.
Et alors, qu'est-ce qui fait déjà le succès de cette publication, Monique? Pourquoi un tel message se propage-t-il sur les réseaux sociaux?
Il faut dire que cela s'inscrit dans un contexte bien précis, Sophie. Sous la présidence de Donald Trump, les États-Unis ont drastiquement réduit leurs aides internationales. Or, les programmes de lutte contre le VIH reposent en grande partie sur les financements américains, notamment le programme PEPFAR. Au Cameroun, où l'OMS estime à plus de 480 000 le nombre de personnes vivant avec le VIH en 2022, ce type de rumeur se propage donc très vite. Mais quand nous avons contacté le porte-parole du ministère camerounais de la Santé, sa réponse a été sans appel, c'est une fake news. Quelques jours plus tard, le ministère publiait même un communiqué officiel à ce sujet.
Alors justement, qu'est-ce qu'il dit ce communiqué, Monique?
Il est très clair, les médicaments et les soins liés au VIH, à la tuberculose, restent totalement gratuits au Cameroun. Le gouvernement évoque aussi la mise en place d'une couverture santé universelle et encourage toute personne à signaler une demande de paiement suspecte. Le docteur Joseph Okam, responsable du Comité national de lutte contre le sida, nous l'a confirmé. Le traitement ARV est gratuit, le dépistage est gratuit et le suivi, y compris le test de charge virale, est lui aussi entièrement gratuit.
Oui, alors il est effectivement important de rétablir les faits parce que ce type d'infox pourrait donner lieu à des arnaques. Cela n'empêche pas que sur le terrain, certaines ONG s'inquiètent quand même pour l'avenir.
Tout à fait, Sophie. Nous avons échangé avec 2 ONG camerounaises qui reconnaissent des perturbations. Jodel Kayo, par exemple, de l'ONG Positive Generation, parle de l'inquiétude des patients face à ces rumeurs alarmantes. Médecins sans frontières, de son côté, redoute carrément une catastrophe humanitaire. Dans une note publiée le 2 février, l'organisation met en garde. Des patients sous traitement contre la tuberculose et le VIH pourraient voir leurs soins brutalement interrompus si les financements venaient à manquer. Et ce n'est pas qu'une menace lointaine. Prenons le Kenya. En 20 ans, les États-Unis y ont investi plus de 8 milliards de dollars dans la lutte contre le VIH. Mais depuis la suspension de l'aide américaine, les conséquences sont déjà dramatiques pour les personnes séropositives.
Alors le contexte est donc tendu, mais on peut l'affirmer. Au Cameroun, il n'y a pas de traitement ARV payant à l'heure où nous parlons.
Exactement, Sophie. C'est une publication mensongère.
Merci Monique Ngomayag pour ces précisions et pour retrouver toutes les vérifications de l'AFP. Rendez-vous sur factuel.afp.com. Merci à Adi Diagne pour la liaison en duplex de Dakar et à Arthur Bon en régie ici. Les dessous de l'Infox, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à nos invités, chroniqueurs et chroniqueuses, ainsi qu'à Hélène Avril à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous laisse en compagnie de Philippe Le Caplin. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Sophie Malibaud. C'était donc les dessous de l'Infox sur Radio France Internationale. Dans un peu plus d'une demi-heure, sur RFI, ce sera Afrique Soir. L'actualité du continent, ce sera avec vous, Sylvie Berruet. Et la crise au Soudan du Sud et des menaces sur l'accord de paix à la une.
Oui, bonsoir à tous. Le médiateur kényan, l'ex-premier ministre Raila Odinga est arrivé à Juba. Le secrétaire général de l'ONU appelle les dirigeants sud-soudanais à déposer les armes. Et puis le ministre de l'Information a donc confirmé officiellement que le vice-président Riek Machar a bel et bien été assigné à résidence et son arrestation fait craindre le retour de la guerre civile.
Également la guerre dans l'est de la RDC au sommaire d'Afrique Soir.
Oui, et le Qatar qui reçoit le M23 à Doha après avoir réuni, on s'en souvient, il y a 10 jours et à la surprise générale, les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame. Au Burkina Faso, la répression contre la société civile et la presse s'intensifie puisque Human Rights Watch appelle à la libération de 3 journalistes qui ont été arrêtés lundi.
Et puis un bilan du sommet de Paris contre la malnutrition.
Oui, plus de 27 milliards de dollars, c'est la somme qui a été promise. C'est un record mais aussi un défi. Alors qu'on le sait, l'aide américaine a été supprimée par Donald Trump. Axel Van Trotzenburg, le directeur général senior à la Banque mondiale, sera notre invité.
Et puis le Gabon à la une.
Le Gabon, oui, avec des confirmations d'actes de torture contre l'épouse de Ali Bongo et son fils Nordine.
On verra ce qu'il dit.